J'aimerais vraiment. Ça fait plusieurs semaines, je dis « Seigneur, j'avoue que je suis intimidé toujours quand je vais ailleurs. Je suis à l'aise dans l'église où je suis parce que je me sens loin dans le sens où pas regarder de près. Alors permettez-moi ce matin de ne pas regarder qui je suis ou mes limites, mais de regarder au Seigneur et de chercher à entendre sa voix. Ça fait plusieurs jours, je médite. Souvent, il m'arrive d'avoir une pensée, de la laisser, dans un coin et de dire « je vais y revenir, je vais travailler là-dessus ». Mais pour ce matin, c'était clair, très clair. Et je voudrais introduire ce que je vais aborder par le psaume 11, si vous voulez chercher avec moi, verset 3. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse prier, si vous le permettez. « Ta parole nous a été laissée pour nous interpeller, pour nous enseigner, pour nous convaincre, nous redresser, nous éduquer, pour nous encourager. » Et ce matin, si nous ouvrons ta parole, c'est pour, Seigneur, vraiment entendre ta voix. Et je sais que tu dépasses les mots, tu dépasses, Seigneur, nos limites, parce que ton esprit est à l'œuvre, et cette parole est inspirée, elle est puissante, elle est aiguisée comme cette épée, et nous croyons que tu veux parler. Aussi, je prie vraiment que nos cœurs, nous puissions les ouvrir pour toi, que nos âmes, Seigneur, s'ouvrent à ta grâce. Seigneur, que chacun d'entre nous repartions avec ta parole dans nos cœurs. C'est là notre désir, que ta volonté s'accomplisse au milieu de nous et trouve en nous des cœurs disposés, des cœurs honnêtes, vrais, qui osent accepter ta parole. Merci Seigneur. Amen. Psaume 11, verset 3, juste cette question que pose David. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? Dans d'autres versions, il dit, quand les lois qui soutiennent la société sont détruites, que peut faire celui qui t'obéit ? Nous constatons avec évidence que la société, sans être dans une critique acerbe, mais juste dans un constat, que les fondements, les lois qui soutiennent notre société sont bien ébranlées, n'est-ce pas ? Sont bien remis en cause. Et beaucoup de choses, de lois, aujourd'hui, sont vraiment loin des intentions divines, et nous le regrettons. Mais il y a une question. Le juste, que ferait-il ? On pourrait décliner longuement, les uns et les autres, tous, diverses attitudes, diverses choses que l'on pourrait faire pour répondre à cette question. Par exemple, la prière, l'intercession, le jeûne. On pourrait parler également de témoigner plus ardemment. On pourrait parler d'entretenir notre piété personnelle, ou la Bible à utiliser, comment l'utiliser, que faire, etc. Mais je voudrais, ce matin, plutôt mettre l'accent sur une qualité de la mentalité, de l'état d'esprit de l'enfant de Dieu. La trempe de chrétiens que Dieu souhaite voir dans nos cœurs. Cela englobe tous les aspects que l'on pourrait décliner en réponse à cette question. Si vous voulez bien, on va lire dans le psaume 15, maintenant. Je voudrais lire tout ce psaume, parce que j'ai à cœur de parler de l'intégrité ce matin, vous parler de la part de Dieu de l'intégrité. Et le psaume de David au chapitre 15 dit ceci. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne se fait pas point de mal à son semblable, il ne fait point de mal à son semblable, et ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, dans le sens de ne pas se conformer à cela, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais, jamais. Hein ? Alors l'intégrité, c'est essentiel dans la vie du chrétien. C'est la vie du chrétien, c'est la vie du disciple, du vrai chrétien. Je parle chrétien, c'est le vrai disciple. C'est quoi l'intégrité ? C'est l'état de quelque chose qui a toutes ses parties, qui n'a subi aucune diminution, aucun retranchement. Être intègre, c'est être entier. La même racine d'ailleurs, c'est la même racine, entier, intégrité, ce sont les mêmes choses. On parle de l'intégrité d'un territoire, d'une œuvre, d'un monument. Et c'est un état, bien sûr, vous le comprenez, de quelque chose ou de quelqu'un qui a conservé toute sa vie sans altération. Et Dieu désire de faire de nous des hommes et des femmes intègres. Il ne veut pas faire de nous des adhérents ou des religieux par intermittence. Il n'y a pas cette réalité dans le paysage de la parole de Dieu. Mais il y a où je suis avec Dieu, où je ne suis pas avec Dieu. Il y a une intégrité. Et Dieu désire que nous rappeler, parce que je sais que vous savez ces choses pour beaucoup, mais il désire nous rappeler, je crois, que nous soyons les uns les autres de plus en plus intègres dans toutes les voies de Dieu. C'est quelqu'un qui est honnête. On parle de l'intégrité d'un juge et on commence à remettre en question beaucoup de choses. Alors, quel est le contraire de l'intégrité? Ben, on pourrait prendre tout un tas de mots, d'attitudes. On pourrait parler de la duplicité. Vous savez que l'apôtre Paul donnera ses conseils aux diacres, entre autres, et dira « éloigner de la duplicité, hein, d'être double, d'avoir un cœur double ». L'inverse de l'intégrité, ça peut être l'hypocrisie, le mensonge, ça peut être la calomnie, toutes ces choses que l'on peut déduire facilement. Hein. Pensez maintenant, il y a quelques jours, il y a un homme, je crois que c'est Pesquet, hein, c'est ça, hein, ce Toulousain, je ne sais pas s'il est Toulousain, mais voilà, qui est parti, je ne sais pas où, dans un autre monde. Imaginez que la fusée ne reste pas intègre. La fusée ou le véhicule, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se désintègre. Hein, c'est facile, hein, hein. Il se désintègre en plein vol et là, c'est la fin. Quelqu'un qui n'est pas intègre, eh bien, il sera amené un jour à être désintégré. Pas, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas qu'il va disparaître comme ça. C'est qu'il va aller dans des endroits, un endroit que la Bible décrit comme la vallée de la Géhenne. Vous savez qu'on vérifie l'intégrité, et je vais aller maintenant un peu plus loin dans la parole, mais avant j'aimerais juste vous dire qu'on vérifie l'intégrité d'un pont, vous le savez. Hein, le pont, on le construit, et avant de commencer à faire passer des semi-remorques, du tonnage dessus, on vérifie. On vérifie, et je pense que là il y en a plusieurs qui parleraient mieux que moi de cela, l'intégrité d'un avion. Et on sait que le premier avion qui sort d'une chaîne va subir tout un tas d'épreuves, tout à fait spécial jusqu'à ce qu'il arrête de vivre, hein, cet avion. Il vit pas, mais il arrête de fonctionner. On parle également de l'intégrité d'un bâtiment. On va vérifier les dosages, on va vérifier, on va même parfois faire des contrôles pour vérifier les dosages, aller plus loin. On parle de l'intégrité d'un sous-marin pour faire écho avec ce que j'ai partagé hier soir avec les adolescents. Alors la question qu'on se pose et qu'on peut se poser, suis-je intègre? Ne me répondez pas. Êtes-vous, sommes-nous, intègres? Alors, je vois bien la réponse française. Dans certains domaines, peut-être oui, dans d'autres, je ne sais pas. Hein. Mais c'est une question que nous devons nous poser. Parce qu'on peut assister à des rencontres, partager, avoir le cœur réchauffé par la grâce de Dieu, mais la vie chrétienne, ce n'est pas juste lors de nos rencontres, on le sait bien, c'est aussi tous les jours de nos vies, que je sois en public, que je sois dans mon lieu privé, que je sois chez moi, ou que je sois sur mon lieu de travail, l'intégrité ne s'arrête pas à certains moments, ce n'est pas comme un habit qu'on revêt à certaines occasions. J'aimerais vous dire qu'être intègre, ça ne parle pas de la perfection en tout, parce qu'il ne faudrait pas non plus croire que c'est être parfait en toute chose. Malheureusement, on aimerait l'être tous, mais on sait très bien que c'est pas cela. Alors, laissez-moi poser quelques questions pour vous aider à peut-être discerner si j'intègre. Après, on va développer trois aspects concernant l'intégrité. La première, pour savoir si je suis intègre, répondez par oui ou par non dans votre tête. Parlez-vous en mal des gens qui parlent mal de vous? Honorez-vous vos promesses? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Êtes-vous une personne digne de confiance? Ou rapportez-vous les secrets des gens aux autres? Y a-t-il une chose que vous faites que vous vous reprochez? Vous allez me dire, si j'avais su, je ne serais peut-être pas venu ce matin. Aimez-vous vous mettre trop souvent en avant? Faites-vous de l'exagération, parfois mensongère, hein, quand vous racontez vos expériences? Vous avez remarqué que des fois, on aurait tendance à enjoliver les choses. Usez-vous de cupidité dans vos relations? Travaillez-vous avec excellence ou médiocrité? Êtes-vous satisfait de votre relation avec Dieu, de votre piété? Et on pourrait prendre plusieurs questions encore. Alors, face à ces questions, on a tendance à se retrouver circonscrit, cerné, et on commence à avoir un peu peur. Donc, on va partager la parole de Dieu. Et on va s'ouvrir à la grâce de Dieu. Par ces questions, et conformément au psaume 15, on comprend que l'intégrité du chrétien touche à tous les aspects de sa vie. Ce n'est pas juste que dans sa piété, mais c'est dans tous les domaines de sa vie, dans toutes ses relations et dans tout ce qu'il est. Et je voudrais vraiment vous encourager, nous encourager par la parole à tendre vers ce que Dieu attend de nous. Je ne dis pas qu'on n'y est pas, mais on veut progresser dans ses voies. Je me suis réjoui d'entendre les dons spirituels, de voir le peuple de Dieu, d'entendre les louanges et on s'est associé pour bénir le Seigneur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quel privilège. Et comme vous l'avez dit, il y a des pays où on est menacé de mort si on parle de ça en public. Et nous, on a la facilité, la grâce de le faire. Et nous avons raison de pouvoir bénir le Seigneur. Alors, quels sont les trois aspects que je veux développer avec vous? Je voudrais parler du fait que l'intégrité, ça concerne ce que nous sommes. Ce que nous sommes en premier lieu. C'est-à-dire, être intègre dans ce que nous sommes, sans masque. Être authentique, en fait. Hein? Vous savez comment on vérifie l'intégrité d'un pont, je l'ai dit tout à l'heure, d'un avion, d'un bâtiment? On le soumet à de multiples contraintes. Et de ce fait, de même, l'enfant de Dieu va vivre et connaître des situations des fois éprouvantes, des situations contraires, de l'opposition, des fois des épreuves qui sont difficiles. Et on pourrait faire écho à toutes les paroles et tous les récits bibliques qui parlent de l'épreuve, mais je relève celle-ci dans 1 Pierre 4:12. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Hein » Et un peu plus, verset 16. « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, et qui plutôt est glorifié Dieu à cause de ce nom. » En fait, toutes les tribulations, toutes les épreuves que nous rencontrons, il y en a dans lesquelles on se met nous-mêmes, il y en a qui sont aussi de l'opposition de la part de l'ennemi, mais parfois Dieu permet, et souvent Dieu permet ces choses, pour que nous puissions aussi avoir un retour sur notre intégrité, voir l'évaluation de qui nous sommes vraiment. Ces tribulations, elles vérifient, elles attestent, voire consolident l'intégrité du chrétien. Ce que l'on vit, ce n'est jamais innocent. Et je crois que souvent, nous avons tendance à vouloir dégager les situations d'un revers de manche, mais le Seigneur nous laisse des fois dans certaines circonstances pour que nous dépendions de lui. Nous ne comprenons pas pourquoi toute la nuit les disciples vont ramer alors que Jésus est sur la montagne. C'est lui qui les a obligés à traverser le lac. Et il est là, il reste là-haut. Pourquoi c'est toute la nuit qu'il rame? On ne le comprend pas. Obligatoirement, on n'a pas une réponse logique. Mais ce que l'on sait, c'est que Jésus savait et que Jésus est venu vers eux au bon moment. Ils ne sont pas, ils ont été intacts, dans leur intégrité physique, dirons-nous, et ils sont arrivés à bon port. Mais je crois que Dieu permet souvent que nous puissions être éprouvés pour également savoir où nous en sommes dans notre foi, dans notre intégrité. J'aimerais juste aussi ajouter cette remarque. Un avion, un pont, un bâtiment possède une certaine élasticité. C'est-à-dire que si un avion était rigide et créé d'une manière tellement solide qu'il serait presque pas du tout élastique, ça casserait. Et vous savez que même un pont se dilate, même un bâtiment, je travaillais en charpente métallique à une époque, et on calculait les dilatations, et on réfléchissait à cela pour éviter d'avoir des problèmes. En nous-mêmes, je dirais, il faut bien sûr croire et comprendre que Dieu nous invite à être intègres, mais il nous faut de la souplesse, de la compréhension, il nous faut de l'aide de la part du Seigneur pour ne pas être tellement raide que dans certaines situations tout casse rapidement, mais plutôt être ductile comme l'or éprouvé est ductile. Quel était le problème? Je dirais, commun aux pharisiens, on en a parlé un petit peu hier soir, si on lisait tout le chapitre 23 de Matthieu, on trouverait souvent cette expression « malheur à vous ». Et il parle aux pharisiens, hein. Je ne parle pas à vous. Hein. Il parle aux pharisiens, aux scribes et hypocrites. Il dira parce que, lisez avec moi. Matthieu 23. On va aller au verset 25. Matthieu 23, verset 25. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors que dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur, aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà, les religieux, les érudits de l'époque avaient des principes, avaient tout un tas de choses, mais leur cœur était pas entier, était pas complet, pleinement voué à Dieu. Il y avait une façade et il y avait un autre être intérieur qui était autre chose. Il y avait une différence entre ce qui émanait, ce qui disait, de ce qu'ils étaient. Et la réalité, c'est que c'est pas l'intégrité, ça. C'est l'hypocrisie. Mais par contre, l'enfant de Dieu, lui dit non, ce que je suis à l'intérieur, je veux être authentique et je ne veux pas cacher ces choses. D'ailleurs, devant Dieu, on ne peut rien cacher. Hein. Mais on le sait bien. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, on a pu avoir peur de venir vers Dieu. Parce que c'est d'ici, c'est tout. On est mal parti. Je le dis souvent, quand j'étais adolescent, j'avais peur, vous savez de quoi, quand j'allais à l'église, qu'il y ait un don spirituel qui dise ce qu'il y avait dedans là et qui dévoile les choses négatives. Je me suis dit, tu vas attraper la honte de ta vie. Je me disais, pourvu qu'aujourd'hui Dieu ne me parle pas par un don spirituel. Vous voyez, c'est grave quand même. Hein, c'est un peu dommage. Et c'est quelque chose de dramatique. Mais la réalité, c'est que mon cœur était double. Mais béni soit Dieu. Dieu nous fait grâce quand on se repent vraiment. Et on revient vers lui. Hein, et le problème de ces pharisiens, c'est qu'ils n'étaient pas, bien sûr, nés de nouveau. Hein, donc ils pratiquaient une religion. Hein, et on comprend, c'est ce qu'il va dire à Nicodème, qui était lui-même pharisien, qui vient de lui vers lui. Hein, il va lui dire, il lui dit pas, il parle pas de rite ou de pratique, mais il veut parler de naître de nouveau et qu'il y ait un cœur nouveau, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et ce matin, s'il y a des amis qui sont pas du tout conscients de la grâce et l'amour de Dieu, ne cherchez pas à adhérer à une pratique religieuse, à faire comme l'autre ici, mais plutôt à rencontrer celui qui a changé notre cœur. C'est lui qui nous a donné une vie nouvelle. C'est lui qui nous fait grâce. Et c'est pour cela que le cœur de l'individu, avant tout, doit être régénéré. Et c'est pour cela qu'on peut devenir interne. C'est parce que Jésus a tout accompli pour nous. Et n'oublions jamais que ce ne sont pas nos capacités humaines qui nous permettent d'aller de l'avant. Il y a notre vouloir. Et je suis d'accord tout à fait à dire que nous sommes responsables de nos vies, qu'on est chrétien. C'est-à-dire que je décide ou je ne décide pas. Je choisis ça ou je ne choisis pas ce chemin-là. Et comme on l'a lu dans le psaume tout à l'heure 15, vous avez vu avec moi, et il est dit, celui qui marche dans l'intégrité. Et quand je marche, je décide de marcher sur un chemin. Je prends cette orientation. Et nous sommes invités donc à marcher. Donc, l'important pour nous, c'est d'être intègre. J'aimerais vous rappeler, et on aurait pu prendre toutes les personnes, les personnages de la Bible qui parlent, et que la Bible dit d'eux qui sont intègres. On aurait pu prendre Noé, on aurait pu prendre Abraham, on aurait pu prendre plusieurs et faire une liste et étudier cela. Je n'ai pas le temps de le faire, mais je veux juste soulever que Job, vous savez, quand il y a ce dialogue dans le premier chapitre, il nous est dit, il demeure ferme dans son intégrité. C'est Dieu qui dit ça de Job. Il demeure ferme dans son intégrité. L'intégrité, l'authenticité de nos cœurs permet à l'enfant de Dieu d'être comme, je dirais, je pensais à cette image des colonnes. Vous savez quand il dit des colonnes, l'appui et la colonne de la vérité, des colonnes. Je sais pas si vous aimez les vestiges. Moi, j'aime pas trop les vestiges. J'aime pas trop. J'ai pas trop de connaissances. Ça m'intéresse. Je suis toujours surpris. Et je me rappelle quand j'étais en Charente-Maritime, nous étions en Charente-Maritime. Il y avait à côté de chez nous un golf. Mais bon, le golf, ça m'intéressait pas trop. Mais ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait un viaduc romain, gallo-romain, qui était là, un vestige. Et vous aviez plusieurs arches. Et souvent, j'ai eu l'occasion de me transiter dans ce coin-là, en plein milieu du golf, mais il y avait un chemin de randonnée. Et à chaque fois que j'arrivais là, j'étais impressionné. Je me disais, depuis des siècles, ce vestige est là. Je suis toujours impressionné. Et ça m'a fait penser à ces colonnes antiques, vous savez, dans les temples grecs et autres. Je parle pas là d'une autre religion. Je parle pas de s'égarer, mais regardez. Ce sont des vestiges, et ce qui a fait la résistance de ces colonnes, ça provient, vous savez quoi? De leur entièreté. C'est-à-dire qu'une colonne, un vestige, qui demeure dans les temps, ces colonnes qui sont partout où vous les regardez, de n'importe quel angle où vous tournez autour d'elles, elles sont semblables. Il n'y a pas une colonne avec une belle apparence, vous savez, et derrière c'est creux. Vous n'avez jamais vu ces maisons dans des villes? Vous avez une façade extraordinaire. Puis quand vous passez dans la rue voisine, adjacente ou perpendiculaire, vous apercevez que la maison est toute plate. Moi, j'en connais, je peux vous citer des adresses. L'apparence, elle est trompeuse. Vous êtes là, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est une prouesse architecturale. Vous passez sur le côté, ça ressemble à rien. Excusez ces mots. Langage albigeois, Albi parle comme ça. Hein. Et Dieu ne veut pas que nous soyons ainsi. Il ne dit pas que nous paraissions comme ces pharisiens, avec beaucoup de choses, mais que nous puissions être vrais et authentiques. L'autre aspect, c'est être vrai dans ce que nous disons. Tout à l'heure, c'était être vrai dans ce que nous sommes, être intègre dans ce que nous sommes, authentique, mais maintenant dans ce que nous disons. On a lu dans ce psaume 15, il dit, qui dit la vérité selon son cœur. Il dit la vérité selon son cœur. C'est être vrai dans nos dires et constant dans nos dires. Je n'ai pas un langage, j'ai tout à l'heure un autre langage. Je dois avoir ce langage vrai qui correspond à ce que je suis. Ces personnes, cette personne intègre, elle dit ce qu'elle pense réellement. Et elle pense ce qu'elle dit, c'est-à-dire elle n'a pas, de là à l'extérieur, dans ce que je dis, il n'y a pas un changement. Il y a ce que je pense, mais ce que je dis qui est conforme à ce que je pense. Et c'est nécessaire. Et on a parlé, vous savez que ça a été dimanche dernier, si ma mémoire est bonne, ça a été un dimanche qui a été proposé pour parler de la persécution et des frères et sœurs qui sont persécutés dans la prière, dans la réflexion. Et on a abordé, pour nous sur Albi, l'exemple d'Étienne. Vous savez, Étienne, cet homme rempli d'Esprit Saint et de sagesse. C'était quelqu'un qui avait été choisi par l'Assemblée pour servir aux tables avec d'autres. Il y avait même des gens qui étaient prosélytes et d'autres qui étaient même pas juifs qui étaient là. Et ils servaient pour la gloire de Dieu. Et vous savez qu'à un moment donné, il va se retrouver, Étienne, devant le Sanhédrin. On estime à 71 personnes, des gens qui avaient un certain pouvoir, une autorité de l'époque. Et Étienne, il va commencer à parler. Et il va relister tout le chapitre 7, vous relisez, vous verrez qu'il va, lister l'histoire des Hébreux avec toutes les péripéties, pas pleinement dans tous les détails, ce serait trop long, mais il va développer. Et au fur et à mesure qu'il développe, au début tout va bien parce qu'il va s'expliquer, il va expliquer le cheminement et la pérégrination du peuple hébreu. Mais à la fin, lisez avec moi ce qu'il va dire. Acte 7, verset 51. Si vous regardez la fin du verset 50, il y a trois petits points, parce que l'auteur relate une partie, probablement, du discours d'Étienne, donc il a dû aller bien plus loin. Et au verset 51, vous voyez toujours dans cette réflexion, il dit la vérité selon son cœur. Regardez au verset 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ceux que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. » En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et vous savez qu'il va subir, et ça va être le premier martyr, la lapidation du temps, bien sûr, de l'Église, ça va être la lapidation d'Étienne. Étienne, il avait un cœur intègre, dans le sens où il n'a pas dit, tiens, je suis devant Sanhédrin, je suis en mauvaise posture là, alors je vais dire des choses qui sont belles, qui ne sont pas fausses, elles sont de la parole, et il ne va pas enjoliver ou s'arranger en manipulant la parole pour arriver à ses fins, un compromis où lui, il n'a pas besoin de s'impliquer dans ce qu'il est. Il ne se dégage pas de la situation, il ne dit pas qu'une partie de la vérité pour essayer de se sortir de ce guépier, il n'arrange pas son discours, il ne cherche pas autre chose, mais il n'est pas timoré et pleutre, il va jusqu'au bout de ses convictions et de ce que Dieu lui dit. Et ça, c'est un témoignage pour nous. Quand des fois nous serons face à des situations difficiles, nous devrons être des hommes courageux, des femmes courageux, courageuses, qui n'ont pas un discours qui varie dans le temps, mais ou selon les personnes, mais qui ont un discours vrai. Être vrai dans nos dires, que Dieu nous aide. Puis ne pas aussi avoir un témoignage, transmettre une image artificielle du chrétien. Il y a une personne que je côtoie de temps en temps, chaque fois que je la vois, Croyez bien, je ne juge pas là, mais elle me dit, je dis ça va. Elle me dit, c'est parfaitement avec Dieu, c'est extraordinaire, etc. Alors, au début, j'étais impressionné par cette personne. Toujours, parce que je me disais, finalement, elle est toujours bien plus grande que toi dans l'esprit de Dieu, tant mieux. Hein. Mais je me suis aperçu qu'il y avait ça, ce langage. Mais en fait, ce n'était pas vrai. Dans le sens où il y avait des épreuves, et quand il y a eu des épreuves, il ne parlait pas comme ça. Hein. Alors, voilà, toute ressemblance avec des personnes, hein, voilà, on se comprend. Je ne critique pas, je ne juge pas, mais le langage doit être vrai. Le langage doit être ce que l'on est. Et parfois, on essaie de composer, de dire des demi-choses, mais c'est faux. La vérité, c'est la vérité. Une demi-vérité, ce n'est pas une vérité. Une demi-vérité, c'est un mensonge. D'accord ? Donc, attention de ne pas trop nous laisser avoir sur ce terrain-là, que Dieu nous aide, et que notre oui soit oui, que notre non soit non, que ce ne soit pas un couvert blanc et rose, mais que ce soit très précis, parce que ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas changer dans le langage par rapport à ce qu'il y a dans notre cœur, mais d'être vrai. Et des fois, il vaut mieux dire non, ça ne va pas, que de dire oui, ça va, ça va. Et puis au fond du cœur, dedans, c'est triste. Et vous savez que la parole parle de ces choses, je ne vais pas les développer. Donc, être authentique dans ce que nous sommes, être vrai dans ce que nous disons. Et puis, je vais terminer par le fait d'être honnête dans ce que nous faisons. Une personne honnête, elle dit ce qu'elle fait et elle fait ce qu'elle dit. Vous voyez, c'est interdépendant, hein, hein, d'accord ? C'est interdépendant. La parole est très claire là-dessus. Nous devons tenir nos engagements, tenir nos paroles. Et des fois, Dieu va exercer certains châtiments parce qu'ils n'ont pas tenu la parole, l'engagement qui avait été pris auparavant à cause de certains peuples, à cause de certaines situations. Hein. Mais voici ce que dit le psaume 15, on l'a vu, ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. C'est-à-dire, voilà, il s'est engagé, c'est engagé. Il ne cherche pas à trouver une excuse. Et des fois, on est des champions dans le monde. L'être humain est le champion des excuses. Il trouve toujours tout un tas d'excuses, pas possibles, inimaginables, des vrais, des moins vrais. Et la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que tu ne peux pas te rétracter. Alors, je ne veux pas faire peur à qui que ce soit, mais la Bible nous encourage à être des hommes qui réfléchissent avant de parler, mais quand ils parlent, ils parlent et ils s'engagent jusqu'au bout. Proverbe 20-25 dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré » et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Hein? Mais ça arrive parfois. Vous connaissez la parabole aussi que Jésus enseignera de ces deux hommes, Matthieu 21-28, que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, et n'alla pas. » Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu avec vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Alors bien sûr, vous le comprenez, ça parle du fait que si je m'engage, je dois tenir mon engagement, parce que sinon, je vais me retrouver comme celui qui a dit oui et qui ne va pas. Ça, c'est terrible. Bon, si vous dites non et que vous y allez, c'est bien. Hein, mais il vaut mieux dire oui, j'y vais, et j'y vais pour le bon. Hein. Ça, c'est la troisième solution. Ananias et Saphira, mes amis, ils n'ont pas été honnêtes dans ce qu'ils ont fait. Ça ne veut pas dire qu'ils ont... Ils ont quand même vendu leurs biens. Ils ont quand même amené de l'argent. Il y en a qui n'ont pas fait, peut-être. Hein. Mais vous voyez, ce n'est pas dans le fait de ce qu'ils ont fait ou pas fait, mais c'est comment je le fais qui compte. Et Ananias et Saphira en ont subi les conséquences. Ils n'ont pas été vraiment honnêtes en toute chose, une demi-vérité, pas entièrement. Et on sait que ça va être fatal pour leur vie. Heureusement que Dieu ne fait pas ça avec nous, dans notre marche, parce que je pense que peut-être beaucoup d'entre nous, moi le premier, je ne serais peut-être plus là. Un homme qui me bouleverse, qui me touche à chaque fois que je lis ce passage, c'est Jaïrus. Moi, Jaïrus, il me parle beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne m'appelle pas Jaïrus, hein. Je n'ai pas d'ascendance dans ce niveau-là. Mais il aurait pu dépêcher quelqu'un pour aller chercher Jésus. Il aurait pu dire, allez, vous y allez, vous attendez qu'il y ait un moment de creux, vous lui dites qu'on se voit après, on va s'arranger, hein, on va trouver une solution. Il faudrait que, voilà, vous trouviez une solution. Mais non, il n'est pas dans ce registre-là et il est tellement en souffrance, bien sûr. Et quand on souffre beaucoup et qu'il y a une urgence, mes amis, les protocoles, la bienséance humaine, Elle disparaît d'un coup. Hein. Mais il est là, devant la foule, lui, ce chef de la synagogue, lui que tout le monde connaissait, peut-être craignez. Il avait tellement besoin de secours qu'il ne reste plus dans l'ombre. Il ne reste plus, je dirais, là, dans un protocole drapé, dans son autorité, dans son présence, dans ce qu'on lui doit. Mais il vient, il se met là, le nez au pied de Jésus, il se prosterne devant lui. Ce n'était pas sur la moquette, hein. C'était dans la poussière. Devant tout le monde, les autres peut-être disaient « Oh, Jairus !» On se moquait de lui. Probablement, on était surpris, qu'est-ce qui se passe? Mais lui, il supplie Jésus de venir dans sa maison. Et moi, je bénis Dieu pour ces exemples bibliques, ces vérités bibliques qui nous touchent, qui nous amènent à dire, lui, il a tombé le masque, là. Hein. Il a pas cherché à tergiverser, etc. Il n'a pas cherché à trouver un discours qui passe partout. Mais il est honnête. Il est tout à fait honnête à ce moment-là. Il supplie Jésus. Et est-ce qu'il a bien fait de supplier Jésus? Ben oui. Parce que par la suite, il a été entendu dans sa prière. Sa fille de 12 ans a été guérie. Béni soit Dieu. Hein? Être honnête dans les responsabilités qui nous incombent. Je sais que pour beaucoup, peut-être, vous travaillez, vous avez des responsabilités, vous avez un emploi séculier, et l'honnêteté est le parfum, je dirais, de l'enfant de Dieu. Il y a des années de cela, dans une église, il y avait un frère qui avait une petite entreprise, et il vient me voir et il me dit... qu'est-ce que tu en penses? Là, on me demande de me payer comme ça, de main à la main. Je dis, qu'est-ce que j'en pense? Ça va être vite vu, ce que j'en pense. Et je lui ai expliqué. J'ai dit, si tu veux être honnête devant Dieu, si tu aimes Dieu, tu ne dois pas faire ces choses-là. Tu as périclité. Tu penses gagner, tu vas perdre. Par contre, si tu es sérieux, et si tu fais les choses comme il le faut devant Dieu, tu pries Dieu qui t'aide dans ta démarche, tu verras la gloire de Dieu. Et cet homme-là, pendant des années, il avait survécu, surnagé. Mais il a saisi cette parole, pas la mienne, mais la parole de Dieu, et il a compris ces choses. Et on a vu ce jeune, parce que c'est un jeune, on a vu ce jeune vraiment, au fur et à mesure, je suis parti de l'église où on était à ce moment-là, mais l'ayant croisé quelques temps plus tard, il me disait, c'est incroyable, j'ai des contrats, avec des grandes entreprises toulousaines, on n'était pas loin de Toulouse à l'époque, etc., c'est super, j'ai dit, mais toi, tu as honoré Dieu, Dieu t'honore. Et la vérité, c'est que tu dois être honnête, mon ami. Et si nous avons une responsabilité, ce qui fait la force de votre témoignage, c'est pas que le dire, mais c'est l'honnêteté de votre cœur, de ce que vous êtes. Alors oui, c'est difficile, et on prie pour ceux qui travaillent dans des emplois où c'est des fois difficile, et on est en contact avec des gens ou des responsabilités, il y a des manigances, on essaye de vous prendre en otage professionnellement, vous faire dire des mensonges. Là aussi, il faudra peut-être dire non, c'est pas comme ça. Alors que nous étions dans l'église à votre pasteur, Monsieur Gau, je travaillais comme dessinateur à Puy-Laurent dans une entreprise, et dessinateur industriel. Et j'avais le responsable du bureau d'études qui me dit, aujourd'hui, je suis pas là. Ah, tu t'en vas? Non, je suis pas là. Si quelqu'un m'appelle, tu dis, je suis pas là. J'ai dit, quelqu'un appelle, je peux avoir monsieur, je vous épargne le nom. Si, je peux le dire, vous le connaissez pas. Il s'appelle Monsieur Champion. Il était champion du mensonge, hein. Je peux avoir Monsieur Champion? Ah ouais, je me ravis, j'ai dit, oui, il est là, mais il veut pas vous parler. L'autre derrière, le monsieur champion, il faisait des bons comme ça, hein. Il était champion de saut à la hauteur, et il m'a crié dessus après. Mais je me suis pas laissé faire, hein. Je me suis retourné, j'ai dit, oh, c'est bon, hein. T'as qu'à assumer tes responsabilités. C'est toi le responsable. Tu me dis, pas un mensonge. Moi, je vais pas cautionner ton mensonge. Tu te débrouilles. Alors, ça lui a pas plu, mais la fois d'après, il m'a plus jamais rien dit. Il a dit à un collègue, tu fais dis ça. Et il a compris qu'il fallait pas qu'on arrête avec ces choses-là. Et quand on se laisse faire, je ne dis pas d'être méchant ou rebelle, mais quand on se laisse faire pour le mensonge, mes amis, c'est donner l'avantage à l'ennemi de notre âme. C'est ce que l'on ne veut pas. Soyons honnêtes dans les responsabilités qui nous incombent à tous, hein, professionnellement, mais aussi familialement. Ou être honnête. Honnête avec ses enfants, honnête avec son épouse, honnête avec ses parents. C'est pas toujours facile, les choses et la vie se chargent de nous amener, il y a tellement de chemins qui pourraient être presque honnêtes. Mais Dieu nous dit, il n'y a qu'un chemin qui est honnête. Il marche dans l'intégrité. Et nous sommes invités à marcher dans l'intégrité. Alors je conclue, et on aurait pu développer encore tout cela. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Eh bien, mes amis, dans ce monde où le mensonge, l'hypocrisie, la duplicité, et c'est normal, c'est le péché, on ne juge pas, on ne critique pas. Parce que quand on n'est pas éclairé, on fait comme tout le monde. Hein. Mais la duplicité prend plus de plus ampleur, même des fois chez l'enfant de Dieu. Mais je dirais non, décidons-nous toujours plus à être intègre, à demeurer et à vouloir demeurer intègre. Je marchais sur le chemin de l'intégrité. Et mon frère, ma sœur, toi qui es jeune aussi, ne dis pas « oui, j'y arriverai jamais ». Ça, c'est un mensonge que tu crois. Ça décide toi seulement à te tenir devant Dieu, dans la communion, mais aussi à être honnête avec lui. Pour dire « là, j'en suis là, mais je veux, Seigneur, que te demander ta grâce ». Sois authentique, entier dans ce que tu es, dans ce que nous sommes. Être vrai dans nos paroles, paroles conformes à nos pensées, qui ne sont pas frelatées ou transformées. Je veux être honnête dans mes actes, même si cela aujourd'hui est pareil dans la société. Être honnête dans nos actes, hein, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Plaise à Dieu que dans cette assemblée, un grand nombre d'enfants de Dieu recherchent de plus en plus l'intégrité. Que Dieu vous bénisse vraiment. J'aimerais vous lire juste ce verset pour conclure. Psaume 41, verset 12, je vous le lis, ne cherchez pas. « Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. » Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Et c'est là où nous disposons nos cœurs à vraiment être remplis de la vie de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que cette Église puisse grandir en vérité, en intégrité, en amour, que votre cœur soit bouillant pour le Seigneur, rempli de lui. Prions ensemble. Toi qui sondes les cœurs des êtres humains, toi qui sais ce de quoi nous sommes formés, toi qui connais même nos prières avant que nous les formulions, toi qui tiens tout dans tes mains, on sait qu'on peut rien, on ne peut rien te cacher. Aussi, c'est avec humilité, mais aussi dans la foi, que nous te disons que nous sommes désireux de marcher plus, toujours plus dans l'intégrité. Et s'il y a des faux pas, s'il y a eu des moments où cela n'était pas vraiment flagrant, nous te demandons pardon. Ce que nous désirons vraiment, c'est marcher à ta suite et t'honorer. Parce que Seigneur, ce monde enténébré doit voir des hommes et des femmes qui sont intègres, qui sont remplis de ta vie, remplis de ton amour et de ta compassion. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir à présenter une religion et des principes avec un cœur autre, mais nous voulons être avoir ce cœur entier, intègre, qui honore ton nom. Merci pour mes frères et sœurs de cette assemblée. Merci de les bénir de plus en plus, afin qu'ils te restent fidèles, de plus en plus proches de ce que tu souhaites, et que chacun d'entre nous, nous puissions te servir fidèlement en toutes choses. Merci pour ton peuple. Merci pour ceux qui, Seigneur, dirigent cette assemblée. Bénis-les abondamment aussi, que nous te restions tous fidèles jusqu'au bout pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen.